avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des viols en République démocratique du Congo. Quelle reconnaissance et réparation judiciaire des femmes victimes. Pour en parler, je reçois en direct de passage à Paris, Tatiana Mukanire. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes coordinatrice du mouvement des survivantes des violences sexuelles en RDC. On est très heureux de vous recevoir sur RFI en direct dans le studio des 7 milliards de voisins. Vous venez de publier un récit au nom des millions de femmes victimes au Congo, dont vous faites partie, Au-delà de nos larmes, préfacé par le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Je vous lis d'ailleurs tout de suite un message de Rachel, qui a 22 ans, qui est à Bukavu. Elle est en colère. Voici le message qu'elle nous a envoyé. Ces femmes violées perdent espoir, estiment d'elles-mêmes et sont souvent bannies de leur famille, chassées par leur mari, par la société. Et quand elles ne supportent plus la solitude et le rejet, certaines se suicident. Et que font les autorités pour soutenir ces femmes victimes des violences sexuelles? Rien du tout, absolument rien, nous dit Rachel, ni pour les aider ou les soutenir, ni pour leur rendre justice. Alors pour répondre à Rachel, nous sommes également en ligne avec la conseillère spéciale du président Félix Tshisekedi. Bonjour Chantal Mielou Moulop.
Bonjour madame.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et quant à vous, les voisines et les voisins, selon vous, comment libérer la parole des femmes? Comment reconnaître leur calvaire? Est-ce que vous pensez que les réparations et les condamnations des bourreaux pourraient freiner le retour de la violence sur les civils ces derniers mois à l'est de la RDC? Vous pouvez intervenir sur notre compte WhatsApp, comme chaque jour dans l'émission en direct, au 33 7 64 45 51 41.
Bonjour les voisins et les voisines, je m'appelle Afi Kriti, je suis journaliste et responsable d'un média en ligne. Je vous appelle depuis la RDC, plus précisément à Kinshasa. Tous les jours, ce sont des femmes qui sont victimes. Et non seulement des femmes, mais également des petites filles, des fillettes. Et moi, je me dis que c'est d'abord un problème d'État, un problème politique. La peur de représailles. C'est là où les bas blessent. Parce que la personne victime de viol, après être allée auprès d'une instance judiciaire, est-ce que sa protection est garantie? C'est vrai que le coupable pourrait être arrêté, bien sûr, et après être relâché après. Mais quelle serait la garantie de cette femme? Et une autre cause aussi qui est très importante, c'est le manque de connaissance du système judiciaire. Les victimes de viol savent-elles par où commencer? Quelle démarche entreprendre une fois victime? C'est vraiment difficile de pouvoir arracher la parole auprès de ces victimes. Pourquoi? Parce qu'elles sont vraiment renfermées en elles-mêmes.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Commettre des viols avec une extrême violence et s'acharner sur l'appareil génital des femmes lorsque les forces nationales, les forces armées congolaises chassaient les rebelles à un endroit, les femmes payaient un lourd tribut puisqu'elles étaient traitées de complices des rebelles, et quand les rebelles envahissaient un endroit, ils traitaient les femmes de la même façon et les femmes subissaient. Et ça, c'est horrible dans ce type de conflit où finalement le conflit quitte le champ de bataille pour se faire sur le corps des femmes.
Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, il était sur RFI il y a quelques jours dans l'émission Idée de Pierre-Édouard Deldic pour son livre « La force des femmes ». Tatiana Mukanire, comment vous avez été amenée à militer à ses côtés?
En fait, militer aux côtés du docteur Mukwege, c'était un devoir pour moi. Mais ce n'était pas aussi facile pour moi parce qu'au tout début, après le viol, c'était difficile de porter le fardeau. C'était difficile de briser les silences et d'ouvrir ma voix. Il a été là, il m'a prise en charge, il m'a aidée il m'a soutenue, vraiment. Parce que pour moi, c'est comme un père. Parce que de là où je viens, de passer de l'étape de victime à aujourd'hui, actrice du changement, c'était pas donné, au fait.
Qui a pris des années. Vous avez été violée en 2004.
J'ai pris plus de 10 ans avant de parler, plus de 10 ans, oui. Et il était là, il m'a dit, essaie de donner la voix, essaie de donner la force à d'autres femmes. Et c'était pas facile pour moi, ni t'étais le soutien de ma famille, le soutien de mon mari. C'était vraiment quelque chose que je devais faire, mais comment le faire dans une communauté où, quand on a été violé, on porte la honte de toute une famille. C'était compliqué, mais il a été là pour moi et sincèrement, dans les livres, au tout début, je le remercie parce que pour moi, c'est un héros vivant. Il a aidé 2 milliers de femmes comme moi à s'en sortir. Bien sûr que tout en a pas libéré la voie jusque-là, vu la peur de représailles et autres, mais avec le temps, ça va arriver parce que la femme a un pouvoir extrêmement grand et qu'elle peut changer son monde à tout moment.
Est-ce qu'à l'époque, en 2004, vous aviez 18 ans, non ?
J'avais 19 ans.
19 ans. Est-ce que vous avez pu porter plainte vous-même ?
Bon, je n'ai pas pu porter plainte parce que d'abord, c'était au moment de l'insurrection. Il n'y avait pas moyen de porter plainte. En même temps, il y a des gens qui avaient été violés avant moi, qui avaient porté plainte et qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais obtenu gain de cause. Quel courage j'allais avoir de porter plainte. Aujourd'hui, j'essaie d'encourager d'autres femmes à porter plainte parce que, vu la situation actuelle, je me suis renseignée, j'essaie d'avoir de partenaires pour trouver gain de cause pour des femmes. Malheureusement, elles arrivent 2 fois à obtenir justice, mais jamais de réparation. Et ça c'est compliqué pour toutes ces femmes et ça n'encourage pas de porter haut et fort la voix.
Chantal Yeloumoulop, vous êtes en ligne avec nous de Kinshasa, en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes auprès du président Félix Tshisekedi. Vous avez entendu le message de cette voisine tout à l'heure, porter plainte, briser le silence, briser la honte, aller au-delà de la peur des représailles. Mais comment ? Encore faut-il connaître le système judiciaire ? Encore faut-il que les femmes soient assurées d'une protection judiciaire ?
Oui, absolument. Je comprends ce que la madame a dit. Il faut savoir qu'ici en RDC, pendant longtemps, on essayait de voir comment est-ce qu'on allait mettre la justice transitionnelle en place. Et là, depuis à peu près moins d'un mois, il y a une commission qui a été mise en place qui est dirigée par le directeur de cabinet du président de la République et le ministère des droits humains sur la justice transitionnelle. Alors, c'est pour cela, pourquoi est-ce que cette commission a été mise en place ? C'est pour pouvoir trouver pour aboutir à une réconciliation qui va avoir entre les auteurs et les victimes, et aussi pour aboutir dans tout ce qui est réparation. Alors, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas longtemps, on a eu deux rencontres, forums sur le fonds de réparation. Il y avait le premier forum qui a été mis en place avec la fondation Panzi
la fondation du docteur Mukwege, Panzi.
Le ministère.
Allô. Oui, la fondation du docteur Mukwege, je précisais pour nos auditeurs.
La fondation du docteur Mukwege et le fonds de réparation national, je pense que c'est ça qui s'appelle, le fonds de réparation, le Global Survivor Fund. Et puis aussi avec le bureau de l'ancien ministre de droits humains et le bureau du président de la République qui est mon bureau, celui de la conseillère spéciale. Et ça, c'était à peu près il y a 6 mois ou 7 mois. Après, la distinguée première dame a relancé le fonds de un autre forum, mais ce forum-là était inclusif où il y avait plusieurs acteurs qui devraient jouer pour vite trouver des solutions pour le fonds de réparation. Et ça, c'était il y a à peu près 1 mois ou 2 mois. Et cela devrait appuyer la justice traditionnelle cela devrait appuyer la justice traditionnelle. Mais on sait déjà, pour le fonds de réparation, il y a déjà un décret qui est sur la table du ministre des Droits humains qui doit être finalisé d'ici là et passé au Conseil des ministres. Et on pense à peu près que pour ce fonds-là, il y aura à peu près 8 millions de dollars qui devront être pris dans les différents taxes ici en RDC.
Ouais.
Et ce fonds devrait permettre d'indemniser les victimes et en finir avec l'impunité et donner des moyens de traduire les auteurs en justice, donner les moyens aux victimes de traduire les auteurs en justice. Mmh.
Parce que concernant les réparations, selon l'ONG Médecins Sans Frontières, moins de 1% des victimes de violences sexuelles ont reçu une aide pour retrouver une activité et pour subvenir à leurs besoins et ensuite du coup se réinsérer dans la société. Tatiana Mokaniere, cette guerre dont parle le docteur Mukwege, transposée sur le corps des femmes ou viol comme arme de guerre, qu'est-ce qui relève finalement après 25 années de conflit, alors que le conflit continue, de la planification militaire et de la culture de la violence à l'égard des femmes au plus profond de la société? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions?
En fait, cette question, elle revient tout le jour, en fait. Après plus de 25 ans et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, en fait, cette guerre n'a jamais donné son vrai nom, en fait. Qui est en train de tuer les Congolais? Est-ce que c'est les Congolais lui-même? Est-ce que c'est... En fait, tout ça se passe dans un mélange de peur et en même temps des non-vérités, parce qu'on ne dit pas la vérité sur la guerre en RDC. Il y a les multinationales qui sont impliquées dans les guerres en RDC.
Avec les mines.
Tout ce qu'on a comme minéré dans ce pays, ils font à sexe, ces pays est convoité par tout le monde. Et... si on continue à avoir ces cycles de violence, c'est parce qu'il n'y a pas de garantie de non-répétition. Les gens ne sont pas jugés. On se rend compte que le sommet de l'État, nos gouvernants, en même temps, ils ont trempé dans beaucoup de choses par rapport à ces violences. Madame Chantal a parlé de réparations. Nous, on a participé en tant que survivantes à la table ronde pour lancer les fonds nationaux de réparation. Mais à la fin, on a peur. S'il n'y a pas de vetting... si on ne sait pas jouer avec le vetting, voir qui doit faire quoi dans ça, qui n'a pas trempé dans tout ça, on va finir de trouver que nous, survivantes, on aura des réparations venant de nos propres bourreaux. Et ça ne sera pas de réparation, ça sera une grande humiliation pour nous.
Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Nous voudrons que... Je vais dire que les réparations, ce n'est pas question d'argent, ce n'est pas question financière, c'est question d'honneur. Et jamais un bourreau ne devrait donner des réparations à sa victime. C'est important que les bourreaux répondent de leurs actes. On parle de Fonds national de réparation.
Mais qui seraient des fonds financiers publics.
Oui, mais quand on parle de Fonds national de réparation, c'est seulement un pilier de la justice transitionnelle. Et cette justice transitionnelle, on doit parler de la justice. Et si on ne parle pas de la justice, en fait, nous, en tant que victimes, jamais on aura la paix, jamais on ne va consentir ces réparations, parce que la justice doit partir de pair avec les réparations. Et nous, on peut être prêts à pardonner, mais qui pardonner? On doit savoir qui sont réellement nos bourreaux et pourquoi tout ça est arrivé.
Vous connaissez des familles dont vous parlez hein, dans le livre Tatiana Mukanire, où des familles où trois générations de femmes ont été violées à des époques différentes. Et vous écrivez, le viol est devenu comme un héritage, une malédiction finalement.
En fait, si j'ai parlé de ça dans ce livre, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit que le pays entier est un pays de traumatisés. On est devenu un pays de fous, en fait. Parce que si la grand-mère à 52 ans a été violée devant sa fille de 25 ans et que sa fille accouche d'un enfant 10 ans après qui a 6 mois est violée, en fait, ça c'est un héritage quelque part. Mais quel genre d'héritage?
Ce sont des cas réels que vous citez, on est bien d'accord.
Ce sont des cas que moi j'ai vécu, des cas que moi j'ai vus. Je suis coordinatrice nationale du mouvement de survivantes qui compte aujourd'hui plus de 5000 membres. C'est seulement des personnes qui acceptent de parler directement. Mais dans ces pays, il y a de millions de femmes, des hommes, des enfants qui ont subi ces atrocités.
Vous écrivez dans votre livre, Tatiana Mukanire, certaines personnes pensent que le viol ne concerne qu'une catégorie de personnes. Est-ce que c'est encore le cas de Congolais, chez vous, en RDC?
En fait, les choses ont changé aujourd'hui. Il y a de cela 25 ans, les gens pensaient que c'est seulement des femmes non instruite. C'est seulement les pauvres qui pouvaient être violés. Parce que tout cela a commencé dans les carrés miniers où pour essayer de chasser ces personnes de leur propre village, on devait les terroriser. Il y en a qui ont été enterrées vivantes dans ces pays. Et à la fin, quand nous, on a été violés dans la ville de Bukavu, c'était en pleine ville. Ça ne comptait pas que tu sois intellectuel ou pas. En fait, pour le moment, les gens doivent comprendre que les viols ne tiennent pas compte de qui tu peux être.
C'est seulement qu'on a été au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est ce que vous expliquez.
C'est seulement ça, parce que peut-être que tu as été à un endroit où le convoitise de telle ou telle autre chose, ou que quelqu'un qui veut faire payer une autre famille, parce qu'il y a du règlement des comptes à un moment donné, et que tu te rendes compte que tu es tombé dans ça, pour rien. Les femmes qui vivent aujourd'hui à Beni, les femmes qui vivent à Bounia aujourd'hui, elles n'ont rien demandé, elles sont en train de souffrir dans leur corps. Elles sont en train de perdre leurs enfants. Ce n'est pas seulement le viol, mais il y a deux morts.
Il faut rappeler pour nos auditeurs, qui ne sont pas en RDC, que le dernier rapport de l'ONG Médecins Sans Frontières fait mention de près de 11 000 femmes victimes de violences sexuelles qui ont été soignées dans l'un des centres de santé appuyés par MSF. 11 000 femmes victimes de violences sexuelles pour 2020 seulement, et c'est un chiffre largement en dessous de la réalité. Parler, briser le silence, comme vous dites. Aujourd'hui, Tatiana Moukaniré, vous êtes une femme forte, mais il y a beaucoup d'ONG qui ont tenté de recueillir la parole des femmes, qui l'ont fait avec pudeur, délicatesse ou pas forcément, la presse aussi, dont nous faisons partie. Et certaines disent, en fait, c'est pas si simple de parler. Et si l'on refuse de parler, si l'on met en avant sa pudeur, comme vous le faites d'ailleurs dans votre livre, Tatiana Moukaniré, vous parlez peu de vous, pratiquement pas. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il y ait que le doute s'abatte sur vous, que l'on minimise ?
En fait, les doutes, ils s'abattent toujours sur nous. Parce qu'à un moment donné, vu qu'on a peur de perdre son honneur, on a difficile d'expliquer ce qui nous est arrivé. Après 10 ans, 20 ans, on se demande est-ce qu'on va vraiment expliquer tout le détail de ce qu'on a pu subir comme humiliation. Et à un moment donné de ma vie, au fait, je me suis dit, OK, les gens vont douter parce que quand la femme va à la police et qu'on lui pose la question de savoir, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ? En fait, c'est compliqué pour cette femme d'aller encore une fois expliquer à quelqu'un d'autre qu'elle a été violée ou qu'elle a été humiliée. Et nous, en tant que survivantes, on s'appuie sur d'autres survivantes pour avoir plus de force. Parce que c'est facile pour une survivante de parler à une autre survivante. Parce qu'elle sait que cette personne n'aura pas de doute sur ce que je puis vivre. Cette personne a pu vivre la même réalité et va me comprendre facilement.
Donc pour être ni une survivante soupçonnée, ni une survivante honteuse, aucun des deux.
Oui.
Vous vous mettez à plusieurs.
On s'est mis ensemble, on s'est dit, ensemble, parce qu'on s'est dit qu'ensemble nos voix seront plus fortes que le silence. On s'est bat pour ça. Et on s'est dit, nos voix, si on s'est mis ensemble, nos voix iront plus loin. Parmi les survivantes, la majorité n'est pas analphabète. La majorité n'a pas étudié. Et c'est à nous qui avons eu la chance d'aller à l'école, de porter cette voix. Et c'est pourquoi dans les livres, je parle peu de moi. En fait, je dis, je suis toutes ces femmes. Je porte le message de toutes ces femmes.
Mais comment parler d'abord auprès de la police, hein, parce que pour porter plainte, il faut forcément déposer une plainte auprès de la police. Chantal Yeloumoulop, où en est la réflexion à ce propos, sachant qu'en RDC, à l'heure actuelle, évidemment que les responsabilités ne concernent pas que des groupes armés, mais également des hommes en uniforme. Chantal Yeloumoulop, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous de Kinshasa ?
Oui, je suis avec vous. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre question. Il faut savoir que le président de la République, depuis qu'il a été nommé président de la République de la RDC, il a vu qu'il y avait beaucoup de banalisation et en outrance en tout ce qui concerne la violence faite à la femme et beaucoup d'impunité du côté des auteurs. Alors, à partir de là, il a mis une conseillère en charge, une conseillère spéciale en charge de tout ce qui est violence faite à la femme, de toutes sortes de violences faites à la femme, pour montrer à l'opinion publique, mais aussi à l'opinion mondiale, à quel point il est vraiment engagé dans tout ce qui est violence faite à la femme et il en fait son cheval de bataille. Alors, ce qui fait que du côté de la justice, le président de la République a mis tout en place pour qu'on puisse travailler dans cette histoire de justice traditionnelle. Ouais, mais... Et on sait que les lois sont aussi en, les lois sont en train d'être élaborées pour assurer la protection des victimes et des témoins et des survivants dans le programme de l'agenda du communiqué conjoint et de la campagne de tolérance zéro.
Accueillir la parole des victimes, ça commence forcément à la police. C'est la première institution de proximité.
Absolument. C'est pour ça qu'il y a eu en place cette, comment je peux dire, il faut peut-être reculer un peu dans l'histoire du pays. C'est-à-dire en 2010-2011, on a déclaré que le pays était la capitale du viol. Directement, la Commission de sécurité des Nations Unies a mis en place un contrat entre la RDC et les Nations Unies pour en finir avec la violence, surtout la violence sexuelle en zone de conflit, est délistée parce que le pays est toujours jusque maintenant dans la liste noire de tout ce qui est violence sexuelle en zone de conflit. Et pourquoi est-ce que ce contrat a été mis en place? C'était le communiqué conjoint parce qu'on s'est rendu compte que les auteurs de viols, c'était les hommes en uniforme, c'est-à-dire les hommes qui sont dans l'armée et à la police congolaise. Alors, et de là est sorti deux plans d'action. C'est-à-dire, il y a eu le plan d'action de la police nationale et le plan d'action de la force de la FARDC de l'armée congolaise. Et entre-temps, il y a la feuille de route de l'ADENOM. Ce plan d'action fonctionne très, très bien. Et il y a eu la révision du communiqué conjoint en 2016 et on a pu mettre en place un addendum de ce communiqué conjoint pour pouvoir finir les parties qui n'ont pas été achevées pendant à peu près 5 ans.
Vous restez avec nous, Chantal Yeloumoulop, la conseillère spéciale du président Félix Tshisekedi. Vous êtes en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et puis, bien sûr, Tatiana Moukaniré, qui est dans le studio des 7 milliards de voisins sur RFI. Vous publiez « Au-delà de nos larmes ». N'est pas une arme, The Strong Girls et Timbuktu. Vous écoutez 7 milliards de voisins. Nous sommes en direct sur RFI avec Tatiana Moukaniré qui publie Au-delà de nos larmes. Nous parlons du viol des femmes en RDC. Quelle reconnaissance, quelle réparation judiciaire pour les femmes victimes. Et nous sommes également en ligne avec Chantal Yeloumoulop qui est en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes auprès du président congolais Félix Tshisekedi. On a entendu le docteur Mukwege tout à l'heure, prix Nobel de la paix 2018. Voici ce qu'il dit à propos des enfants soldats qui, eux aussi font partie du processus de la violence à l'égard des femmes.
J'ai essayé de comprendre, mais je crois que c'était très difficile. Je me posais toujours cette question. Les animaux ne font pas ça à leur père. Comment l'homme peut faire ce que je vois sur ces femmes ou sur ces bébés que je soigne? Et j'ai parlé avec ce garçon qui m'a parlé de son initiation qui a consisté à mutiler sa propre mère. Et vous comprenez très bien que lorsque un enfant l'amène à mutiler sa mère, finalement, toutes les autres femmes représentent quoi? Rien du tout. Mais cet enfant qui a été bourreau, aujourd'hui, moi, je l'appelle plutôt, je les appelle des enfants ou des adultes. Ils sont devenus tous adultes avec des pathologies mentales assez graves, mais ce sont des bourreaux victimes.
Oui, et on est bien dans une stratégie militaire, Tatiana Moukaniré, quels que soient les groupes armés, quand on embrigade des enfants en leur faisant commettre l'irréparable.
En fait, depuis 2 années, en RDC, au tout début, on a enrôlé des enfants dans l'armée. Des enfants de 12 ans sont partis dans l'armée. À l'époque, on les appelait de Kadogo. C'était vraiment de petits enfants qui n'avaient rien d'autre à faire que peut-être se venger ou vouloir montrer leur pouvoir. Et quelque part, on leur a fait un lavage de cerveau. Ces enfants, aujourd'hui, ils ont trempé dans beaucoup d'atrocités. Et certains, aujourd'hui, ont des grades. Ils sont gradés dans l'armée congolaise. Et c'est compliqué aujourd'hui pour cette armée de s'en sortir. C'est important que l'on sache parce que aujourd'hui, c'est comme si la pyramide a changé en RDC. Les hauts gradés de l'armée sont plus nombreux que le militaire de rang. Et ça n'aide pas vraiment l'armée congolaise. Et en même temps, s'il n'y a pas eu de garantie de non-répétition, les gens qui ont trempé, qui ont violé des femmes pendant plus d'une semaine dans plusieurs zones. Par exemple, je prends le cas de Minova. C'est un village entre Goma et le Sud Kivu. En fait, où les femmes ont été violées pendant un moment par le militaire à la garde présidentielle. Il y a eu un procès et jamais ces femmes n'ont obtenu de réparation après plusieurs années. C'est aujourd'hui qu'il y a eu un projet qui a été pris en charge par le Global Savava Fund qui est venu faire un projet là-bas pour aider ces femmes, leur donner un peu d'espoir pour continuer à revivre. C'est carrément pas possible que l'on continue à laisser ces personnes à nous laisser souffrir et rejeter à notre propre sort.
Ouais. Chantal Yeloumoulop, il y a l'impunité, les condamnations, les réparations, ce sont deux choses différentes, hein, les condamnations et les réparations. Alors, il y a la campagne Tolérance Zéro qui a été lancée en juin par le président Tshisekedi. La ligne verte, aussi un numéro gratuit pour que les femmes puissent parler. Le projet de la Commission nationale de justice transitionnelle. Mais tout ça, dans la réalité concrète des femmes, où en sont réellement les plaintes, les condamnations? Quel est le signal envoyé finalement à la communauté des femmes victimes, Chantal Yeloumoulop?
Bon, les plaintes, comment je peux dire, les plaintes sont... Je peux commencer peut-être par la ligne verte hein, pour oui. expliquer exactement qu'est-ce qui a été mis en place. Et puis après, je vais me rattraper avec les enfants soldats parce qu'on n'a plus d'enfants soldats dans la force armée congolaise.
Régulière.
Depuis 2016, il n'y a plus d'enfants soldats dans la force armée congolaise. Mais pour les femmes qui portent plainte. Il a été mis en place la ligne verte, le numéro 122, qui existait bien avant ma nomination et qu'on a redynamisé il y a à peu près un an pendant la période du Covid, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait le taux de viol et de violence avait augmenté envers les femmes durant la période de Covid. Alors ce numéro vert est tout simple, c'est-à-dire les femmes ou les personnes qui vivent une violence appellent pour dénoncer. Et quand ils dénoncent, direct on les envoie dans un One Stop Center où il y a une prise en charge de santé et une prise en charge de soins psychosociaux. Et après, ils sont renvoyés directement dans un centre pour une prise en charge de, juridique. Et tout ça, c'est vraiment gratuit.
Ça veut dire que ces appels peuvent mener à une plainte en justice, concrètement?
Concrètement, si les plaintes en justice se font ici à Kinshasa, bah, y a mon cabinet qui va justement directement de ce côté-là, là où y a la justice est en train de se faire, poursuivre pour qu'on voit qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas d'impunité qui se passe à ce moment-là.
Mais vous dites à Kinshasa, mais quand les violences se produisent à l'est de la RDC à des milliers de kilomètres
Là, je parle de mon cabinet qui est ici sur place. Mais à l'Est, ou que ce soit dans le Kassai, il y a déjà directement des représentants qui sont là, qui sont payés par le BCNUDH, qui est en charge de tout ce qui est soins psychologiques et tout ce qui est côté justice. Il faut savoir que la ligne verte a été financée pendant un moment par l'UNFPA et aussi par BCNUDH. Mmh. Et là, maintenant, on est en train de continuer avec IPAC, qui est en train de nous financer aussi pour que cette ligne verte ne soit pas seulement pour les victimes de violences sexuelles, mais toutes sortes de victimes, même ceux qu'il y a à voir avec la traite des êtres humains et tout le reste.
Qui paye les frais de justice pour les femmes? Qui paye les frais de justice pour les femmes victimes? Tatiana Moukaniré, c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi.
Oui, en fait, je vais répondre sur la ligne verte d'abord. La ligne verte, au fait, elle peut fonctionner peut-être à quelques pourcents à Kinshasa. Mais du fin fond de la RDC, où il n'y a ni communication, comment ces femmes pourront utiliser cette ligne verte? Je suis consciente que depuis que Mme Chantal Moulope est sur les manettes, au fait, elle essaie de bouger les choses. Mais le Congo, il est vaste. Et le Congo n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, c'est le Kassai, le Congo, c'est l'Est de la RDC.
Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît?
Bien évidemment, Madame Yeloulop.
Oui. Pour la ligne verte fonctionne dans les 26 provinces de la RDC. Vous serez étonné que les nombres des personnes... On reçoit à peu près 10 000 coups de fil par mois. Et en plus, ça fonctionne 24 heures sur 24. On a 4 téléopérateurs. Si on avait plus de fonds, on aurait plus de nombre de personnes qui allaient dénoncer. Mais... vous serez étonné que c'est souvent le Kassai. On reçoit plus des gens du Kassai qui nous appellent et les gens de l'Est du pays qui nous appellent par rapport à ceux qui sont à Kinshasa. À Kinshasa, par hasard, c'est à Kinshasa que les gens qui ne sont pas vraiment au courant de la ligne verte.
En fait,
les statistiques sont là, les rapports sont là, oui.
Et je pense que c'est bien que cette ligne verte soit là, mais c'est important que les personnes qui doivent l'utiliser directement soient sensibilisées. Au fin fond de Mwenga, vers Kabikokole, où les routes, il n'y a même pas de route.
Vous exprimez en tant que coordinatrice nationale du mouvement national des survivantes des violences sexuelles.
Je m'exprime en tant que porte-parole de ces personnes. Parce que ces personnes, avant de prendre cette route, d'abord la route est dangereuse. C'est sûr qu'elle a été violée et que sur la route, nécessairement qu'elle pourra être réviolée encore une fois. La route est dangereuse et en même temps, il n'y a pas de connexion. Il n'a pas de réseau pour appeler cette ligne verte. C'est très compliqué. Moi, je pense que même s'il y a cette ligne verte, il faudrait mettre des One Stop Center qui sont de proximité dans chaque zone pour que ces femmes puissent obtenir le minimum de soins médicaux pour que le reste soit suivi après dans des structures appropriées. Parce que c'est très important. Parce que si on part du Kassai, je parlais du Kassai dans mon livre, où j'ai rencontré deux femmes de Mulombodi. Elles ont été violées pendant la guerre Kamuina-Nsapu en 2006. Et ces femmes, en 2016 plutôt, et ces femmes, après plus de 5 ans, elles n'ont jamais obtenu d'assistance. C'est avec un projet qu'ils ont obtenu d'assistance et MSF a aidé après plusieurs années. Mais il faudrait en réalité, bien sûr qu'il y a des avancées, mais il faut vraiment pousser très, très haut. Il faut vraiment aller de l'avant pour que l'on puisse accepter ce qu'on a comme défi et essayer de réaliser des choses très concrètes qui vont aider ces femmes à s'en sortir.
Alors justement, très concrètement, Chantal Yeloumoulop, les juges sont souvent, quand la plainte arrive jusque sur le bureau d'un juge, ils sont souvent accusés de rechercher des solutions à l'amiable entre les familles au détriment de la victime. Chantal Yeloumoulop, à
oui,
Kinshasa.
Oui, c'est vrai, madame. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup, comme je disais, il y a beaucoup d'impunité, beaucoup de corruption. C'est pour ça qu'on doit se battre pour cela. Et c'est pour ça que le président de la République a mis ce cabinet en place pour pouvoir veiller à ce qu'on puisse en finir avec l'impunité, à ce qu'on finisse avec tout ce qui est violence faite à la femme, tout ce qui a été des jugements qui n'aboutissent souvent à rien du tout. Et c'est pour ça que nous, on suit tout ça de près. Mais je vais quand même revenir sur la ligne verte, hein, pour plus exactement ce que Tatiana est en train de dire. Mais le problème est qu'on ne parle que de l'humanitaire. Dans tout ce qui est violence faite à la femme, on parle que de tout ce qui est humanitaire. Il est temps maintenant de changer de narratif, de commencer à parler de tout ce qui est développement. Dans le développement, c'est-à-dire de mettre plus de one-stop center, premièrement. Deuxièmement, développer les routes. Des routes, une femme qui est dans un village pour pouvoir aller, qui se fait violer pour aller dans un one-stop center. Normalement, ça prend 70 heures pour pouvoir faire tous les examens. Mais souvent, ça leur prend 4, 5, 6 jours avant d'arriver au one-stop center. Ça veut dire que si on doit leur donner la pilule avortive, ça va devenir trop tard de pouvoir donner cette pilule-là. Si on doit donner des traitements, revoir les histoires de BH, tout cela, on va perdre beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on puisse mettre en place tout ce qui est développement. Les partenaires qu'on a ici en RDC doivent penser du côté développement, qu'est-ce qu'ils doivent nous apporter. C'est vrai qu'il faut la construction des routes. C'est vrai qu'il faut mettre en place les one-stop centers, mais aussi des moyens de communication pour nos femmes qui se font violer. Il n'y a pas le téléphone partout, mais on peut mettre un moyen de SMS, on peut leur donner des radios gratuites. Tu sais, vous savez, des radios qui fonctionnent à l'écran solaire ou à un mouvement de rotatif comme ça qu'il faut tourner. C'est tout ça qu'il faut arriver à pouvoir mettre en place pour pouvoir aider ces femmes-là.
Et au-delà de l'accès aux soins médicaux, évidemment un accès qui est primordial, il faut des réparations de type économique pour que ces femmes, Tatiana Moukaniré, comme ça a été votre cas, vous à Panzi, vous avez accès à des soins évidemment médicaux, psychologiques, à une reprise d'études, et vous avez pu rebondir, reconstruire votre vie de cette façon-là aussi.
En fait, moi j'ai été reconstruite de cette manière, mais d'autres femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à Panzi. Aujourd'hui, Panzi a pris en charge plus de 70 000 femmes dans l'hôpital.
Notamment avec des aides financières pour remonter un petit commerce, par exemple.
Ouais. Parce qu'il y a une prise en charge holistique à Panzi, où tu es prise en charge médicalement, psychologiquement, économiquement et, si possible, juridiquement, si les bourreaux ont été identifiés. Mais d'autres femmes, le 70 000, ce n'est pas le 1% des femmes qui ont subi ces atrocités dans ces pays. C'est compliqué pour ces femmes. Mais même si elles doivent relancer ces activités génératrices de revenus, contribuer au développement du pays, dans quelle sécurité? À la fin, on doit revenir sur la source du problème, combattre la réalité. Madame Lop a parlé du narratif. C'est un message qui passe tout le jour avec le ministre de la Communication en RDC. Il faut changer de narratif. Et moi, je me dis...
Ça veut dire quoi, changer de narratif pour vous? Ça veut dire identifier les bourreaux? Ça veut dire la fin
moi,
de l'impunité?
Des
ça veut dire que la peur change de camp aussi? C'est quoi pour vous?
Il faut que la peur change de camp d'abord, mais le narratif se changera de lui-même quand il y aura la sécurité, quand il y aura la justice, quand il y aura la paix.
Alors, il y a le rapport Mapping des Nations Unies qui a cartographié, qui a recensé les victimes, notamment les violences à l'égard des femmes, bien évidemment. Un rapport qui fait globalement consensus auprès de la société civile congolaise et sur lequel s'appuie le docteur Mukwege pour réclamer un tribunal pénal international afin de lutter contre l'impunité généralisée. On l'écoute.
Ce sont des crimes imprescriptibles. Et je crois que la communauté internationale peut traîner les pieds. Mais ces crimes-là, on ne peut pas se taire lorsqu'il y a 5 millions de morts. On ne peut pas se taire lorsqu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de femmes violées. Et aujourd'hui, quand je vous parle, il y a plus de 5 millions de Congolais qui sont déplacés internes ou réfugiés. Beaucoup peut-être ne reviendront jamais dans leur village, puisque tout simplement ils sont dans des camps de fortune où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas la nourriture, il n'y a pas de traitement. Je pense que, pour moi, fermer les yeux sur un drame humain de cette ampleur, c'est une irresponsabilité totale de la communauté humaine. Puisque si on laisse faire un drame comme ça, en République démocratique du Congo, c'est un signal très fort qu'on envoie aux criminels qu'ils peuvent commettre des crimes de cette gravité sans conséquence. Les victimes ont droit à la justice. Les victimes ont droit à la vérité. Les victimes ont droit à des réparations et leur donner des garanties de non-répétition. Et moi, je réclame haut et fort ces droits internationaux pour les victimes congolaises. Et je voudrais que quelqu'un m'explique que les Congolais n'ont pas le même droit que tous les autres peuples du monde.
Chantal Yeloumoulop, la conseillère spéciale du président Félix Tshisekedi, qu'est-ce que vous répondez face à cette demande qui maintenant est une demande récurrente depuis plusieurs années d'un tribunal pénal international? Ça a été une des promesses de l'administration Tshisekedi.
Oui, nous avons participé il y a peut-être un an sur un forum sur... mon Dieu, mes mots m'échappent. Sur...
Est-ce que vous croyez, Madame Yeloumoulop, que c'est une des solutions pour sortir de la violence aujourd'hui?
Je pense que c'est une solution pour sortir de la violence, mais il faut savoir que nous avons, maintenant ça me revient, nous avons participé il y a un an à peu près sur le forum sur le rapport mapping, où on parlait vraiment de ce tribunal national pour qu'on puisse le mettre en place. Ce n'est pas qu'on est international, mais on n'est pas contre de pouvoir mettre ce tribunal en place. Le président de la République appuie même ce projet-là. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est en train, on part en processus, on est en train de mettre en place maintenant, cette justice traditionnelle qui va se mettre en place d'ici quelques mois que le président est en train de d'appuyer. Et dans cette justice, il y aura à peu près 4 points. Il y aura la vérité et la réconciliation, les réparations, la justice et le non-répétition. Alors, il faut qu'on puisse donner le temps à ce que cette justice traditionnelle soit mise en place. Et de là, on va aller à l'autre étape et mettre en place le tribunal international.
Ouais. Tatiana Mokanire, Bandalire, vous êtes chez nous en direct de passage à Paris pour votre livre. Est-ce que aujourd'hui, en étant coordinatrice du mouvement national des survivants des violences sexuelles, il vous arrive encore de craindre pour votre sécurité?
En fait, tous les jours, je crains pour ma sécurité parce que je suis parmi les témoins de la honte. Je suis parmi ces personnes qu'on ne voudrait jamais que la voix ressorte. Mais en même temps, je suis congolaise, j'aime mon pays, je voudrais que mes enfants, parce que tous ces enfants que je vois sur cette terre sont mes enfants, je voudrais un peu leur donner un pays où ils vont vivre en paix, avec beaucoup d'espoir du lendemain. C'est pourquoi je vais rester dans mon pays, je vais me battre pour ça. C'est important que l'État congolais, déjà qu'aujourd'hui, ils essaient de faire beaucoup d'avancements. Je suis vraiment, c'est pour nous un soulagement de voir que déjà dans mon pays, je peux parler à des gens comme Madame Chantal Moulop, je peux parler à la distinguée première dame. Mais parler ne suffit pas. Il faudrait des actions pour ça.
Parler ne suffit pas. Justement, vous avez publiquement évoqué vos enfants. Qui sont-ils, vos enfants, en quelques mots?
En fait, mes enfants, ce sont tous ces enfants congolais, ce sont tous ces enfants du monde. Parce que quand on est parent, c'est pas seulement question de sang, c'est question humain.
Mais vous avez pris en charge en particulier des enfants.
Ouais, je prie des enfants en particulier. Pour
que
moi,
vous avez
c'est
adopté.
Pour. Oui, c'est pour me donner la chaleur familiale. C'est important de vivre avec l'enfant.
En fait, l'enfant. Des enfants qui sont, pour parler plus précisément.
Ces enfants sont, certains sont des enfants issus du viol, avec qui j'ai envie de vivre, à qui j'ai envie de donner plus d'espoir. Ce sont des enfants de ma famille. C'est beaucoup d'enfants à qui je voudrais donner cette chaleur familiale parce que moi-même, j'en ai besoin. C'est important de vivre avec des personnes qui vous aiment, qui vous donnent plus d'affection. Et ça change, au fait, le fait de voir tout le jour le crime. En fait, le Congolais, c'est pas quelqu'un de barbare, c'est pas quelqu'un qui veut toujours faire du mal.
Vous croyez encore en votre pays?
Je crois énormément en mon pays Et comme tous les Congolais sont engagés aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont engagés. J'ai espoir, parce que dans ces livres, je parle du désespoir, mais en même temps de l'espoir. J'ai de l'espoir.
Et bien justement, on terminera, si vous le voulez bien, Tatiana Mukanyere, avec un dernier hommage du docteur Mukwege pour vous toutes les femmes.
Quand je vois le courage de ces femmes, je suis tout simplement ébahi. Je n'arrive pas à comprendre comment elles peuvent souffrir, passer par cette souffrance qui leur est imposée et que finalement ces femmes puissent, lorsqu'elles se mettent debout, qu'elles puissent continuer à aimer, à se battre pour les autres. Et ça, c'est formidable. Parce que quand vous posez la question à ces femmes, elles ne se battent pas seulement pour leurs droits, elles se battent pour les droits de leurs enfants. Elles veulent que leurs enfants aient à l'école. Elles veulent que leurs enfants aient une éducation correcte. Elles se battent pour leur communauté. Et elles sont pratiquement des leaders communautaires. Et ça, moi, je trouve que c'est une force extraordinaire.
Merci à vous, Tatiana Mukanyere et Bandalire, d'avoir été en direct chez 7 milliards de voisins.
Merci
sur
beaucoup.
RFI. Il vous a fait monter les larmes aux yeux. Et vous publiez justement « Au-delà de nos larmes » aux éditions Antoinette Fouque, édition des femmes Antoinette Fouque. Et vous serez aussi reçu à l'UNESCO le 25 novembre prochain dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et la conférence sera d'ailleurs diffusée en direct sur le site de l'UNESCO. Merci beaucoup aussi Chantal Yeloumélope d'avoir été en ligne avec nous. Est-ce qu'elle est toujours
Merci
en ligne ?
Merci à vous aussi.
Merci. Vous êtes donc la conseillère spéciale du président Tshisekedi en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et sachez aussi, les voisins et les voisines, que l'émission Idée sur RFI avec le docteur Mukwege est toujours disponible en podcast. Le lien est sur notre page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr. Et je vous signale aussi les émissions de priorité santé en RDC actuellement, vous les entendez. Et puis, dans quelques instants, nous retrouverons le journal sur RFI. Ce sera juste après les Amazones. Allez, on va se quitter avec ces Amazones. 8 divas pour soutenir la Fondation Panzi à Bukavu au nom des femmes victimes en RDC. Demain, 7 milliards de voisins, journée mondiale des toilettes. La moitié de l'humanité n'a pas accès à des latrines décentes. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianus, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Et bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions en podcast quand il vous plaît.
28e édition des rencontres.